France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France jusqu'à 19h pour évoquer ce soir la place des femmes dans le sport. Elles représentent 38% de toutes les licenciées un peu partout. Or, très peu accèdent à des postes à responsabilité dans la hiérarchie des instances sportives. Des femmes dont on essaiera de comprendre pourquoi elles n'osent pas toujours franchir la porte d'un club de sport, considérant probablement que c'est d'abord un milieu d'hommes. Au moment où dans le football, les sections féminines sont sacrifiées économiquement au profit des clubs masculins, au moment où se dispute la Coupe du Monde féminine de rugby qui a donné un beau sursaut ces derniers jours aux inscriptions de jeunes femmes dans les clubs de rugby, eh bien on va donc poser notre regard ce soir sur ces femmes qui font du sport avec les témoignages de nos trois invités. Et puis avec Corinne Audouin, nous écouterons, archives à l'appui, comment les sportives étaient considérées dans les médias il n'y a pas si longtemps. Une semaine en France, c'est aussi une équipe. Juliette Gou à la réalisation, Frédéric Barrère à la rédaction en chef et Benjamin Ducy à la préparation.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage pour commencer. Bonjour Abigail.
Bonjour.
Vous avez 18 ans, vous jouez au rugby depuis 2 ans et c'est en voulant vous inscrire dans le club de rugby de Viry-Châtillon, près de Paris, que vous avez constaté que ce serait difficile d'obtenir une licence. Quelles difficultés avez-vous rencontrées à l'époque ?
Oui, c'est vrai qu'au début, je m'étais dirigée vers le forum des associations pour trouver un club de rugby vers lequel me diriger. Assez tardivement, parce que j'avais peur avant de rejoindre un club, parce que je pensais que c'était en fait que pour les garçons. Et puis le premier club que j'ai vu, en fait, il n'y avait pas de catégorie cadette, donc destinée à ma tranche d'âge. Donc j'ai dû me diriger un peu plus loin pour trouver un club en fait qui m'acceptait.
Et vous estimez qu'il y a un manque d'informations considérable pour les jeunes filles qui veulent faire du sport et du rugby notamment ?
Oui, c'est vrai que comparé aux informations qu'on va avoir sur les équipes masculines, c'est vrai qu'il y a un gros manque qui se fait voir par rapport aux équipes féminines.
On va parler dans un instant de la Rugby Girl Academy, hein, cette association qui vous a aidé à trouver votre voie dans le rugby. Qu'est-ce que cette structure vous a apporté ?
Elle m'a apporté beaucoup de choses, surtout au niveau personnel plutôt que sportif. Grâce à cette académie, j'ai vraiment pris confiance en moi parce que j'ai pu m'épanouir dans un milieu en fait qui était fait pour moi. Et puis même d'un point de vue professionnel, grâce à la Rugby Girl Academy, j'ai même trouvé un lieu pour mon service civique.
Je reviens à vos appréhensions de l'époque. En tant que jeune fille qui veut faire du sport, quel type d'appréhension aviez-vous précisément sur la pratique du rugby ?
C'était vraiment des appréhensions en fait très clichés qu'on m'avait en fait inculquées par l'image qu'on pouvait avoir des femmes dans le rugby, que c'était peut-être pas le vrai sport comme on le voit, que c'était moins violent, et puis même que je n'avais tout simplement pas ma place en tant que femme en fait.
Et c'est à cause de toutes ces difficultés que donc vous avez commencé le rugby tardivement. Vous le regrettez aujourd'hui d'avoir commencé un peu tard ?
Oui, c'est vrai que j'aurais vraiment préféré commencer plus tôt le rugby afin de pouvoir vraiment prendre en confiance dès le début et puis m'améliorer autant que je pouvais. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de commencer aussi tard, mais c'est pas impossible, on a plein d'exemples, donc j'abandonne pas pour autant.
Et en raison de vos études, vous faites une pause, je crois, aujourd'hui dans la pratique du rugby ?
Exactement, là je rentre donc en licence cette année, donc je préfère me concentrer sur les études parce que c'est vrai que ce sport me passionne, mais au point où j'ai du mal à me concentrer sur les deux en même temps.
Eh bien merci, merci de ce témoignage Abigail, quelle place pour les femmes dans le sport. S'il est une discipline qui depuis ces dernières années a vu grimper son nombre de femmes et de sportives inscrites, c'est le MMA, ce sport de combat où presque tous les coups sont permis. Exemple à Rouen, nous allons dans une séance de Ladies MMA, 100% féminine, donc ouverte il y a 3 ans pour briser les tabous et inciter les femmes à combattre le machisme notamment. Les sportives là-bas sont de tous âges, de tous horizons. C'est le micro ouvert de Sandrine Houdin.
11h pétante, le prof s'approche de l'enceinte, entraînement. Émilie, 12 ans, gants de boxe rouge, frappe dans un sac de sable.
Émilie, La première fois que t'as parlé à tes copains d'école, ta famille, MMA.
Ils étaient choqués. Toi, tu fais du MMA? Tu fais ça comme sport? Je savais plus que tu faisais de la danse, toi. Hein.
C'est pas pour les filles, quoi.
Oui, par exemple, mon grand-père, la première fois que j'avais dit que je voulais faire du MMA, il m'avait dit « Ah, mais c'est pas beau pour une fille de faire du MMA, hein. »
Il y en a ras-le-bol de ça.
Bah ouais, c'est un peu énervant. Il y a pas que les garçons qui peuvent faire des sports comme ça. C'est comme lui, il fait de la boxe. Je vais pas le juger parce qu'il fait de la boxe. Il y en a un autre qui fait du tennis. Je vais pas le juger parce qu'il fait du tennis.
Et s'il faisait de la danse?
Bah s'il fait de la danse, tant mieux pour lui, hein.
Et recoup dans le sac.
Toi qui es jeune, nouvelle génération, tu penses qu'il faut peut-être commencer dès l'école?
Bah oui, je pense que oui. Parce qu'on fait de la gym, on fait du badminton, mais on fait jamais de sport de combat. Je pense que ça pourrait évoluer les mentalités. Puis surtout qu'on est en 2025, bientôt en 2026. Pour moi, une fille, c'est pas plus fragile qu'un garçon.
Ça peut te rassurer aussi par rapport à la défense?
Oui. La nuit, par exemple, parce que du coup, je saurais comment je peux réagir.
Un mec qui t'agresse, tu me plaques au sol, quoi.
Bah oui.
Antoine, juste derrière, aux haltères.
Vous avez l'impression que le sport est encore assez sexiste pour certaines disciplines?
Oui. Quand je faisais du foot, il y a des coachs qui nous disaient parfois qu'il valait mieux qu'on se tourne vers la couture ou la danse si on ne voulait pas faire des efforts et éventuellement se prendre des coups. En gros, qu'il y avait des sports réservés aux femmes et d'autres hommes. Et je pense que malgré tout, ça persiste un peu dans le sport et peut-être des générations plus anciennes. Et justement, la salle ici, je ne sais pas si c'est le cas partout, le fait de pratiquer avec ou à côté de femmes qui pratiquent le même sport, ça nous incite peut-être à changer de regard également.
Chaos, les préjugés, notamment des parents, se démunis, reconnaissent leurs a priori.
Ça m'a un peu effrayée. Je trouvais que ça pouvait être violent pour une fille, en fait.
Et vous? Alors, sport de mec?
Un peu. Parce que j'ai fait de la boxe pendant longtemps et j'ai eu des marques. Et j'avais pas envie de ça pour elle. La violence, on l'associe plus aux hommes.
Et depuis qu'elle en fait, est-ce que quelque chose a changé?
Oui. Après, on se dit, bah pourquoi pas. Après tout, c'est un sport comme tout autre.
C'est parti, les filles. Coup de pied à la tête, coup de pied descendant. Go!
Richard Castillo, coach et fondateur du Ladies MMA, il a grandi au Chili.
Tac, 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 boum!
Est-ce que la France est en retard par rapport à la mixité en sport?
Oui, une discipline où il y a du contact, de la frappe, ça paraît un petit peu extraterrestre pour certains. Parce qu'il y a des a priori.
Allez, go, go, go! On lâche pas! Chez nous, il y a du MMA dans tous les quartiers. Des fois, on voit que des combats féminins.
Elles sont toutes rouges.
Ah, c'est la couleur officielle. D'abord, elles sont rouges, après, à la fin, elles sont bleues. Travaille ton bras avant, derrière toi, voilà.
Protège dents dans la bouche, même combat pour toutes ces femmes.
Il y a beaucoup de filles qui s'interdisent de venir au sport de combat parce qu'il y a beaucoup de gars.
Il y a encore beaucoup de progrès.
Ouais, oui, ça c'est sûr.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux mecs?
Bah, en sport de combat, méfiez-vous de nous aussi, en fait.
Elles arrivent avec des appréhensions. Je suis là pour les pousser. Et après, en partant, elles se disent « Je suis capable, je reviens. »
Je suis capable. Mais comment vous l'expliquez?
Dans leur tête, on a tellement mis les femmes des côtés à faire des activités douces. Elles ne savaient pas qu'elles étaient capables.
Cap comme un homme, quoi.
Oui, tout à fait, oui. Aujourd'hui, elles prennent leur vie en main. Elles arrivent ici. Il n'y a pas de sexe.
Et ça, vous avez l'impression qu'il y a une évolution des mentalités?
Il y a très peu d'évolution, mais c'est mon devoir en tant que coach de faire évoluer les choses et de présenter les arts martiaux d'une façon différente aujourd'hui et qu'elles soient abordables pour tout le monde.
Pourquoi vous dites qu'il y a très peu d'évolution?
Parce que je sais que dans les sports de combat en général, c'est un milieu plutôt machiste. On se doit d'échanger la tendance. Travailler avec de la publicité, le bouche-oreille, avec des émissions comme la vôtre, il faut que ça stoppe, il faut que ça cesse.
Le sexisme au tapis?
Oui. Pour faire parler des femmes et leur donner envie de venir.
Quel serait votre message?
Le message, c'est pas seulement vis-à-vis des femmes, c'est aussi vis-à-vis des hommes. On a certainement peur de savoir qu'un jour les femmes vont nous dépasser à niveau des sports. Donc il faudra que nous, on mette aussi notre orgueil un petit peu de côté. Donc monsieur, je vous invite à venir à ma salle, mettre les gants avec mes combattantes et vous verrez qu'elles sont pas en sucre.
Eh bien, on a retenu le message. Reportage micro ouvert, signé Sandrine Houdin. Vous écoutez Une semaine en France sur la place des femmes dans le sport. C'est le thème ce soir et on en parle à présent avec vous, Béatrice Barbus, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes handballeuse, sociologue du sport, enseignante chercheuse à l'Université Paris-Est-Créteil, vice-présidente déléguée de la Fédération française de handball. Et vous menez un combat, on peut le dire comme ça, pour féminiser le sport en France. On a entendu dans les différents témoignages précédemment que les filles, parfois, donc, n'osaient pas franchir la porte d'un club de sport. Comment est-ce que vous expliquez, avec quel regard regardez-vous ces craintes, parfois, de certaines jeunes filles?
Écoutez, le témoignage d'Abigail est tout à fait classique. tout à fait classique et pas nouveau, hélas. Ce qui, moi, me terrifie encore un peu, c'est qu'on l'entend encore en 2025, surtout pour des sports, vous l'avez compris, qui sont considérés et connotés plutôt masculins que féminins, en l'occurrence le rugby. Donc, comment je vois ça comme une sociologue ? C'est tout à fait classique, encore une fois, c'est pas nouveau. C'est des choses qu'on entendait très fréquemment il y a quelques années. Alors, on l'entendait peut-être pas aussi ouvertement. Aujourd'hui, les jeunes femmes et les jeunes filles osent dire, parler d'oser, elles osent dire que ce qu'elles n'osent pas faire. Mais j'ai envie de vous rétorquer, parce que vous l'avez dit en entrée, elles n'osent pas franchir la porte des clubs. Mais si elles n'osent pas franchir la porte des clubs, c'est parce que, une, vous l'avez entendu dans les propos d'Abigaël, elles pensent que ce ne sont pas des sports faits pour elles. Parce qu'on a longtemps fait croire, effectivement, que c'était pas fait pour elles. D'abord, on leur a interdit, le rugby c'était le cas, le football c'était le cas, on leur a interdit de pratiquer ces disciplines-là, comme d'autres. Et donc, bah oui, c'est pas fait pour elles, forcément, premièrement. Deuxièmement, elles n'osent pas franchir forcément les portes des clubs, parce que faut voir aussi, et là c'est, je me rappelle plus du nom de l'entraîneur qui est intervenu sur le MMA, mais faut voir aussi comment les femmes sont accueillies dans certains clubs, et donc cette ambiance qui est parfois sexiste forcément rend beaucoup plus vulnérable une femme qu'un homme dans un club et dans le champ sportif, et donc c'est tout ça aussi qu'il faut avoir en tête. Qui oserait, franchement, qui, à part d'être maso, qui oserait aller dans un espace, dans un univers où
il y a encore autant de préjugés.
Et oui, où on va tout faire pour que vous y sentiez mal à l'aise. D'où le succès, on l'a entendu, de ce club de MMA 100% féminin, donc en non-mixité, et c'est la première chose qu'elle a dite, c'est là, au moins, on se sent bien, là, au moins, on sait, voilà. Et pareil pour Abigail, qui a témoigné sur l'académie de rugby que les Nike Corson a mis en place.
Academy.
Ouais, et la première chose qu'elle a dit, bah là, au moins, je me sens bien, voilà. Mm-hmm. Là, où j'ai un milieu qui a été fait pour moi, t'as dit exactement.
Et puis, il y a aussi peut-être le rôle des médias, et je nous mets dans le coup à Radio France, les médias qui, à la télé en tout cas, privilégient les retransmissions masculines, même si ça semble évoluer, on le voit avec le rugby en ce moment. Est-ce que les médias font désormais suffisamment le job pour valoriser les sports pratiqués par les femmes ?
Non. Non, les médias ne font pas le job. Incontestablement, là, les statistiques ne mentent pas, les dernières de l'ARCOM ou d'autres. On voit bien que ça représente une minorité des sports qui sont télévisés ou commentés à la radio. On ne peut pas être satisfait de moins de 5%, on ne peut pas être satisfait de moins de 20%, quels que soient les chiffres que vous prenez. Non, ils n'en font pas assez.
Alors
vous avez parlé de la Coupe du Monde de rugby. Ce qui est intéressant, ce qui est en train de se passer là, en 2025, je parle de 2025, oui, c'est qu'il y a eu la Coupe du Monde féminine de foot. Là, il y a eu le Tour de France féminin. Là, il y a la Coupe du Monde de rugby. Il y a eu également le Mondial de volley en même temps. Il y aura à la fin de l'année également le Mondial des handballeuses. Donc là, pourquoi vous avez le sentiment peut-être qu'on en parle plus et qu'on en montre plus ? C'est parce que ces événements-là se cumulent, vous voyez, et sont les uns derrière les autres. Et ça, c'est une bonne chose, parce que du coup, ça met en valeur le sport féminin. Et je voudrais juste dire que ce qui se passe, c'est assez important ce que je viens de vous dire. Pourquoi ? Parce que ce n'est que collectivement, quelles que soient les disciplines, que l'on va pouvoir faire valoriser, en tout cas médiatiquement, le sport féminin. C'est pas en médiatisant seulement la Coupe du Monde féminine de football ou la Coupe du Monde seulement.
Sport.
C'est un
il
bloc.
Faut globalement,
voilà,
valoriser sur les écrans
et les barrières
et sur les ondes également.
Ouais,
et j'y prends notre part évidemment. Pour la télé, les diffuseurs vous expliqueront qu'une retransmission de compétition féminine, ça fait moins d'audience et donc moins de rentrée publicitaire qu'une compétition masculine. Comment est-ce que vous entendez cet argument ?
Je l'entends. Je ne peux pas effectivement réfuter les faits, bien sûr. Bien sûr que pour l'instant, il y a moins d'audience, bien évidemment. Comment voulez-vous aimer regarder ce que vous n'avez jamais vu ? Ce n'est pas possible. Il y a votre œil, alors dans le cinéma, on parle de male gaze, hein, quand on filme, etc. On est habitué de l'œil masculin qui filme. Donc c'est pareil dans le sport féminin, il faut voir aussi comment c'est filmé, commenté. Commenter également, bon, on se rend compte quand il y a des études et des recherches, notamment en communication, en information et communication, on se rend compte que c'est pas commenté de la même façon. Donc oui, je peux pas réfuter. Ceci étant dit, ce que je constate moi tendanciellement, c'est que les audiences augmente de plus en plus, plus on en monte. Je donne l'exemple de Loïs Boisson qui
au tennis.
Voilà, combien elle a fait sur la demi-finale un jeudi après-midi, je crois que c'était.
Ah, oui, c'était un record. 5 millions. Le match aussi était épique, effectivement.
Voilà, un jeudi après-midi, donc c'est même pas à 20h30 ou à 21h. Donc on voit bien que les audiences ne cessent d'augmenter, il suffit d'habituer nos regards, il suffit d'habituer les gens et vous verrez que les audiences seront identiques à celles des garçons qui elles diminuent.
Et on notera depuis ce matin, on l'a révélé à France Inter dans la matinale, que les adhésions, les inscriptions dans les clubs de rugby pour les jeunes filles, dans les clubs féminins, ces inscriptions ont considérablement augmenté avec...
Je vais même aller plus loin, ces dernières années, l'augmentation des licences féminines a été très largement supérieure à celle des garçons.
Vous avez rédigé un livre l'an dernier, intitulé « Dirigeante sportive et plafond de verre, une histoire inachevée ». Qu'est-ce qui aujourd'hui encore empêche les femmes d'accéder aux postes de direction dans le sport, sont les hommes ?
Alors, ce sont les hommes. Ce ne sont pas les hommes en tant que tels. C'est un système dont font partie bien évidemment les hommes, mais aussi les femmes. Vous avez dit tout à l'heure, elles n'osent pas. Bon, premièrement, bah oui, j'entends toujours ça. Encore une fois, comme les sportifs, comment voulez-vous oser aller dans un endroit où, de toute façon, vous savez que vous allez être seul, bien souvent, et que vous êtes dans un environnement sexiste, donc qui n'est pas très confortable pour une personne. Ça, c'est la première chose. Bien sûr que c'est en raison de son organisation et des hommes, pour que et c'est là où je vais être direct. Bien sûr que certains ont à y perdre, parce que pour qu'il y ait des femmes à plus de postes de dirigeantes, encore faut-il que les hommes laissent leur place. Et ce que je constate dans les statistiques, dans les faits, c'est qu'en général, d'ailleurs, ils ne quittent pas pour laisser la place à une femme. Non seulement ils ne quittent pas leur place, mais ils sont fort nombreux à cumuler les postes. Donc il n'est pas rare de voir des gens qui sont présidents d'un comité régional olympique, présidents d'une structure régionale dans leur sport, dans leur discipline, qui sont conseil d'administration de leur fédération, qui ont peut-être président d'une commission de leur fédération. Donc voilà, donc ça cumule. Ça, c'est la première chose. Après, il y a aussi... Donc c'est un entre-soi masculin où on se coopte aussi. C'est un peu ce qui se passe dans le monde politique, c'est un peu ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Et la cooptation, ben, on l'a fait auprès de gens qu'on connaît. Et ben, les hommes connaissent d'abord des hommes parce qu'ils ont l'habitude d'être entre eux. Il y a une majorité numérique qui est très importante au niveau du pouvoir sportif. Et puis, il y a des réunions, il faut avoir de la disponibilité temporelle entre un homme et une femme dans un couple. Qui a plus de disponibilité temporelle, c'est bien entendu l'homme, plutôt que la femme. Donc voilà. Et dernière chose, les femmes qui sont à des postes de dirigeants ne sont pas non plus n'importe quelle femme, ce sont des femmes qui souvent contrôlent leur temps de travail, ou ont les moyens financiers de pouvoir faire garder leurs enfants, de faire faire leurs courses, etc. Donc là aussi, il y a des différences très fortes en termes de classe sociale.
Merci beaucoup de ce témoignage, Béatrice Barbu. Je rappelle que vous avez aussi été parmi les toutes premières femmes en France, la deuxième d'ailleurs à avoir présidé un club professionnel masculin.
Avoir été champion de France avec, donc ce qui prouve qu'une femme présidente, ça n'empêche pas les hommes de gagner.
Merci beaucoup. Merci d'être venu nous en parler ce soir sur France Inter. Dans un instant, un troisième témoignage de sportive. Et puis avec Corinne Audouin, nous écouterons Archives à l'appui. Comment on parlait des femmes sportives, comment on les considérait dans les médias il y a quelques décennies. Ce sera après ce nouveau titre de Kerenan. Et un grand merci d'écouter France Inter.
Je suis rentrée par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure. Fado qui vient de loin, qui bat son plein, qui cherche quelqu'un. J'ai rencontré dans les coulisses le son, l'ivresse et les délices de ceux qui longtemps avant moi y avaient droit à cette vie-là. Tu sais, parfois ça sent l'arnaque. Y en a qui se cassent, y en a qui raquent. Y a ceux qui se taisent, qui rasent les murs. J'ai leurs empreintes sur mes serrures. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, au moins, Paris, toujours, Paris, je te quitterai jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je te promets. Que Paris, un jour, Paris, toujours, Paris, tu tiens. Laissé pour compte, pour retracer une seule rencontre, pour retenir à mon insu un déjà vu que j'ai jamais vu. Je suis rentrée par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure, sur l'infini d'un demi-siècle. Sur leurs enceintes. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, amour, Paris, toujours, Paris, je te quitterai jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches.
Paris, amour, le dernier titre de Kerenan, le choix musical de Djoubaka. Vous écoutez Une semaine en France, à la technique ce soir, Florian de Rimini, Élise Christophe et Julien Dumont.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France consacrée donc à la place des femmes dans le sport et nous sommes en ligne à présent avec une ex-internationale du 15 de France. Bonsoir Lénaïque Corson.
Bonsoir.
Vous êtes consultante rugby pour RMC, 30 sélections en équipe de France. Vous êtes une rugby woman engagée à la tête de la Rugby Girl Academy que vous avez fondée avec les premiers stages de rugby exclusivement réservés aux filles il y a quelques mois. Et alors je le disais, hein, France Inter révélait ce matin une hausse du nombre de jeunes filles licenciées dans un club de rugby, plus 38% par rapport à la rentrée précédente. On approche désormais des 70 000 joueuses inscrites. La Coupe du Monde féminine de rugby, celle de 2025, il y aura un avant et un après ?
Ah bah oui, clairement, là, les chiffres sont assez impressionnants, mais quand on rend visible le sport féminin, forcément, ça donne envie aussi de le pratiquer. Et c'est vrai que le rugby a plein de clichés, comme quoi c'est un sport de combat, c'est un sport agressif, c'est un sport brutal, c'est un sport fait pour les hommes. Donc finalement, de voir des modèles jouer sur un terrain, on se dit bah, pourquoi pas moi ? Moi aussi, je suis une fille et je peux jouer au rugby.
Alors, une hausse de jeunes filles licenciées dans le rugby. On entendait ce matin le vice-président de la fédération, Jean-Marc Lhermé, expliquer que les bons résultats étaient aussi le fruit du plan de féminisation lancé par la Fédération française du rugby. Est-ce que vous partagez ce soir l'autosatisfaction de la fédération ce matin ?
Oui, je pense que c'est quand même une fédération qui a envie que le rugby féminin progresse, même si je pense qu'on peut encore aller plus loin et faire beaucoup plus que ce qu'on ne fait aujourd'hui. Mais il y a quand même une volonté, en tout cas, d'avancer et de rendre visibles les filles. Je sais que dans le plan de politique de féminisation, il y a aussi la volonté, et on se dit, ben, enfin, pourquoi ça n'a pas eu lieu avant, mais d'avoir des vestiaires pour les filles dans les stades. En fait, les jeunes filles qui venaient dans des stades, elles devaient attendre ou utiliser les toilettes pour se changer. Elles ne pouvaient pas prendre leur douche après un match ou après un entraînement. Donc, on ne leur laissait pas du tout la place.
Ça a changé. Il y a plus de...
Ça a changé parce que justement... Oui, c'est ça. Il y a un plan de financement qui a été demandé aussi à l'ANS, l'Agence nationale du sport, pour justement avoir un budget qui soit dédié aux infrastructures dans le monde du rugby, pour justement présenter des vestiaires dignes de ce nom.
Comment les instances du rugby en France vous ont aidé à favoriser l'essor du rugby féminin en France lorsque vous avez monté votre Rugby Girl Academy ?
Je l'ai créé, cette Rugby Girl Academy, parce que j'étais en Angleterre et je me rendais compte que là-bas, ça avançait à 10 000 pas, à 10 000 à l'heure, que finalement, je voyais que mon pays avait énormément de retard sur le développement du rugby féminin. Et j'ai même eu l'impression de vivre dans le futur en Angleterre. C'est-à-dire que les stades étaient pleins. Il y avait une billetterie, il y avait tout un entertainment, un divertissement autour des matchs qui était impressionnant. On avait envie vraiment de jouer dans ce championnat puisqu'il est professionnel. En France, il ne l'est pas encore. Les joueuses qui jouent en Elite 1, donc l'équivalent de la première chip anglaise, ne sont pas rémunérées aujourd'hui pour jouer au rugby. Elles sont évidemment indemnisées. Mais elles n'ont pas un vrai statut. En Angleterre, il y a 2 ans, quand j'ai terminé ma carrière, j'avais un contrat professionnel avec mon club.
J'avais
les mêmes infrastructures que les garçons.
Vous restez en ligne. On a encore quelques questions à vous poser. Le temps de me tourner vers vous, Corinne Audouin, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Corinne, chaque vendredi, vous allez mettre en perspective le thème du jour. Aujourd'hui, eh bien, on va regarder dans le rétro avec cette petite histoire que vous avez résumée concernant le corps des femmes dans le sport, scrutée le plus souvent par des hommes.
Et on commence par les Jeux Olympiques modernes en 1896, et comme dans l'Antiquité pour les femmes, l'important c'est de ne pas participer. En 1928, elles sont tout de même admises dans 5 épreuves d'athlétisme, au grand regret du père des JO modernes, Pierre de Coubertin, en 1935.
Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
Une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte, dit aussi Coubertin. Et cette question de la beauté du corps des femmes va accompagner toute l'histoire justement du sport féminin. En France, la pionnière s'appelle Alice Milliat. Elle fonde en 1921 la Fédération Sportive Féminine Internationale. Et bien même pour elle, l'esthétique est encore considérée comme centrale pour les sportives. La natation, dit-elle, est particulièrement adaptée aux femmes parce qu'elle développe le corps harmonieusement. Alors petit à petit, les interdits vont tomber, et les derniers sont les sports collectifs. Ce n'est qu'en 1970 que la Fédération Française de Football reconnaît officiellement le football féminin, après l'épopée des joueuses du Stade de Reims. Un journaliste parle alors de curiosité érotico-comique.
Alors tout ce que vous pointez, Corinne, on pourrait penser que c'est de l'histoire ancienne, eh bien pas forcément.
Alors on va faire un saut en 1987. Superstar du vélo, Jeannie Longo est championne du monde sur route. Elle va gagner son premier Tour de France. Elle est sur le plateau d'Antenne 2 avec le coureur cycliste Marc Madiot.
Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. On s'exprime sur un vélo, on s'exprime dans le sport. Il n'y a pas de sport qui convienne mieux à des femmes qu'à des hommes.
Je suis contre le cyclisme féminin. Pour moi, je veux vous dire, voir Ulrike Meyfarth faire du saut en hauteur, voir Evelyn Ashford faire du 100 mètres, c'est très joli. C'est très joli à voir. C'est un très beau sport. C'est un très... Non, laisse-moi terminer. C'est extrêmement beau à voir. Le sport doit avoir un côté esthétique. Vous, vous êtes moche, je suis désolé.
Ah non, 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 vous êtes allé un peu loin.
Je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis, des cuissards un peu plus jolis et des chaussures un peu plus jolies, c'est tout.
Ça fait un petit peu mal. Alors face à ces propos misogynes, hein, qui sont incessants envers beaucoup de sportives, eh bien, la plupart serrent les dents. Elles préfèrent se concentrer sur leur performance, ce qui ne veut pas dire que ça glisse sur elles. En 1991, Marie-Josée Pérec remporte la médaille d'or aux 400 mètres aux Mondiaux de Tokyo. Dans le journal L'Équipe, le lendemain, une photo qu'elle n'a jamais oubliée. Marie-Josée Pérec dans C'est à vous sur France 5 l'année dernière.
Alors la photo qu'on choisit, c'est une photo où vous êtes de dos.
Oh, ils sont sérieux.
On ne voit pas le visage de la championne. Et quand on vous en étonnez, qu'est-ce qu'on vous répond ?
Que j'ai de belles fesses et que c'était mieux de passer ça. Alors que bon, c'était la première fois qu'on avait une championne du monde d'athlétisme en France.
Et l'immense championne est l'une des premières à dire tout haut qu'elle refuse ce regard sexualisé sur son corps d'athlète. Alors l'étape d'après, c'est se réapproprier ce regard. Ilona Maher est une joueuse de rugby américaine, médaillée de bronze à Paris, membre du 15 des États-Unis, éliminée en phase de poule à cette Coupe du Monde, on le rappelle. Elle a 5 millions d'abonnés sur Instagram, elle porte du rouge à lèvres sur le terrain et le soir des robes décolletées qui dévoilent ses muscles. Et voilà comment elle décrit sa jambe, oui sa jambe, en plein effort pendant un match.
Je suis une athlète professionnelle. Je cours toute la journée, je soulève des poids. Et voilà à quoi ressemble ma jambe. J'ai de la cellulite partout et c'est totalement normal. Ça n'a rien à voir avec mes capacités sportives, ni avec ma forme ou ma rapidité. C'est juste une partie de mon corps. Tout le monde en a.
Voilà, ici le regard sur son corps, eh bien c'est le sien, c'est elle qui le montre comme elle le veut, de la façon qu'elle a choisi, et ça fait toute la différence. Alors bien sûr, les commentaires continuent à pleuvoir sur les réseaux sociaux, trop musclés, trop masculines, trop maquillées. Le jour n'est pas encore venu où on cessera de commenter le corps des femmes en général, celui des sportives en particulier.
Eh bien merci pour cet œil dans le rétro, Corinne Audouin, Léanie Corson, je rappelle que vous êtes une ex-internationale, ex-deuxième ligne, toute jeune retraitée de l'équipe de France de rugby. Est-ce que lorsque vous jouiez, le regard des spectateurs, des commentateurs, a pu porter, vous porter ombrage ? Et est-ce que c'est encore un sujet aujourd'hui ?
Je pense que je n'ai pas eu autant de visibilité à l'époque, il y a plus de 10 ans, quand je jouais au rugby, puisqu'on ne passait tout simplement pas à la télé encore. Quand il y a eu la médiatisation télé en 2014, là, les gens étaient plutôt... bienveillant envers nous parce qu'il disait que bah, finalement, on n'était pas professionnels, qu'on était vraiment tout amateurs, qu'on faisait ça à côté d'un métier, qu'on prenait des congés payés pour venir en équipe de France. Donc, il y avait un regard finalement très, très sympathique sur nous. Même si on faisait des résultats, à une époque en plus où les garçons n'en faisaient pas. Donc on avait une super bonne image. Aujourd'hui, on voit en 2025, y a des critiques sur l'équipe de France, sur leur jeu, quand ça ne plaît pas aux supporters. Et c'est aussi, je pense, bon signe, parce que ça veut dire qu'on est du coup à armes égales avec les garçons où les critiques sont sur la performance. Par contre, ce qui me dérange le plus, c'est des réflexions des commentaires qui peuvent être faits du style retourne à tes casseroles, tu vas même
c'est
pas vite,
moi je vais plus vite que toi.
Mais bien sûr, mais d'accord. Allez voir mon TikTok, les Nike Corson, vous allez voir, je mets des vidéos.
Merci.
Et en fait, il y a des jeunes qui écrivent, moi je vais plus vite que toi, je suis tes cartes FIFA 29. J'ai dit, mais attends,
merci.
C'est quoi ça? J'ai dit 29 km/h, exactement, c'est ma pointe de vitesse.
Merci.
Donc j'ai trouvé l'humour pour leur répondre, mais c'est typiquement ce genre de remarques qui aujourd'hui il faut combattre. Et c'est pas des. Là, on entendait Jeannie Longo qui avait des réflexions.
Je suis obligé de vous couper, pardon. Mais merci beaucoup, on voulait entendre ce témoignage. Merci Léanie Corson. Et longue vie donc à la Rugby Girl Academy. À suivre l'actualité en région, ce sera le multiplex des radios du réseau ici. Le temps d'écouter quelques notes musicales de cette franco-marocaine. Voici Indy Zara sur France Inter.
Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world. Come to the world. And baby, let me show you things. Cause time is running. Cause we've got time, yes we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. Where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know, don't go if you don't know.
Beautiful Tango, c'était Indy Zara sur France Inter. Il est 18h54.
France Inter, le 18-20. Éric Delvaux.
Une semaine en France, dernière partie avec l'actualité en région. L'actualité d'ici et d'ailleurs avec l'indispensable concours des radios du réseau ici. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ici Roussillon, ici Alsace, ici Saint-Étienne-Loire. Stéphanie Mora, Magali Fichter et Jérémy Marillier, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
À Perpignan, pour commencer, Stéphanie Mora, le Festival international de photojournalisme, Visa pour l'image, va se terminer ce week-end avec une polémique sur fond de conflit israélo-palestinien, car en marge de ce festival, la municipalité RN de Perpignan s'est retrouvée pointée du doigt pour une exposition photo autour du 7 octobre.
Oui, Louis Alliot est critique depuis 2 ans à l'égard des organisateurs de Visa parce qu'il trouve que les expositions ne montrent pas assez le point de vue israélien sur le conflit. Alors cette année, la municipalité a missionné le collectif du 7 octobre pour monter une expo photo dans le patio de l'hôtel de ville. L'exposition repose sur des clichés de Maël Benoliel. C'est un journaliste installé depuis 20 ans en Israël, correspondant pour France Télévisions. Il était sur le terrain le 7 octobre. Seulement voilà, quelques jours après le vernissage, Maël Benoliel tombe un peu de l'armoire. Le journaliste nous raconte que le collectif du 7 octobre lui a parlé d'une expo avec d'autres journalistes, or il est tout seul, qu'on lui a demandé des clichés pendant ses vacances, il a donc renvoyé vers sa page Facebook pensant à une présélection, mais qu'après, plus rien. Et lorsque l'exposition a été montrée, bien là, il y avait beaucoup d'erreurs. Par exemple, des corps de terroristes du Hamas présentés comme des victimes israéliennes, beaucoup de légendes de ces photos fausses, aucune date. Bref, rien ne va, et le journaliste précise qu'on ne lui a jamais dit que la mairie RN était à l'origine de la commande.
Alors qu'ont répondu les organisateurs ?
Alors dans un communiqué, Louis Alliot s'en est d'abord pris aux médias qui ont raconté le couac, dont Mediapart qui a tout révélé. Il assure que sa démarche vise, je cite, à défendre la liberté et témoigner d'une vérité historique. Et l'élu RN s'est retranché derrière le collectif du 7 octobre chargé de l'événement. Lequel collectif a présenté ses excuses aux photographes, s'est engagé à revoir sa copie et surtout à accéder à une de ses demandes, c'était de montrer l'exposition dans d'autres villes de France de couleurs politiques différentes, et on parle de Montpellier ou de Toulouse.
Après Perpignan, une grande ligne droite jusqu'en Alsace, Magali Fichter, et précisément à Sainte-Marie-aux-Mines, où une tour Eiffel de 30 mètres de haut a été installée. C'est une réplique exacte de la vraie.
Oui, alors exact, à deux petites différences près. Vous l'avez dit, elle fait 30 mètres, elle est donc 10 fois plus petite. Et puis elle est d'une belle couleur rouge, conforme en fait à la version originelle, celle de 1889, dont les éléments étaient avant montage, peints en rouge Venise. Mais sinon, c'est vraiment la même, hein, dans les moindres détails, la dentelle de fer, les plateformes, les escaliers, les ornements finement ciselés et même les illuminations. Cette tour Eiffel alsacienne, on la doit à un ancien métallier de Sainte-Marie-aux-Mines qui s'appelle Jean-Claude Fassler et qui a travaillé sur ce projet pendant 8 ans, presque 7 jours sur 7, c'est ce qu'il raconte en tout cas. Elle a été minutieusement dessinée, assemblée et montée avec l'aide de bénévoles, de ses petits-fils et notamment de Kylian qui est lui aussi métallier, serrurier métallier précisément. Cette dame de fer alsacienne, c'est donc aussi une histoire de transmission.
Et elle se trouve où désormais cette tour Eiffel, Magali ?
Alors, elle a finalement été érigée fin août grâce à une immense grue sur une zone artisanale près de Sainte-Marie-aux-Mines avec sabrage de champagne, même si Jean-Claude Fassler regrette en rigolant que Johnny Hallyday n'ait pas été là pour faire un concert. Mais son vrai rêve à lui, ce serait que sa tour Eiffel soit transportée à Paris, près de sa grande sœur jumelle.
Et après l'Alsace, Saint-Étienne, Jérémy Marillier, voilà un groupe de supporters du club de football, baptisé les Socios de l'AS Saint-Étienne. Eh bien, ces supporters vont racheter 0,1% du club.
Oui, qui c'est les plus forts en ce moment, c'est peut-être pas les Verts, hein, retombés en Ligue 2, mais comme le dit si bien la chanson, Saint-Étienne peut toujours compter sur un bon public et sur leurs meilleurs supporters. Un stade Geoffroy Guichard rempli depuis le début de saison, ambiance Coupe d'Europe chez nous, hein, face à Rodez ou à Grenoble. Et les supporters stéphanois qui s'apprêtent donc en effet à entrer dans le capital du club, une entrée possible via un collectif appelé, vous l'avez dit, les Socios Verts. Ça faisait plusieurs années que ce collectif montait en 2021, il rêvait de pouvoir entrer dans le capital de l'AS Saint-Étienne. Le club stéphanois, racheté l'année dernière par un milliardaire canadien. Et cette opportunité, eh bien, elle est arrivée cet été. Les Socios Verts avaient jusqu'à ce vendredi pour rassembler 120 000 euros, la somme nécessaire pour acheter les parts d'un ancien dirigeant du club.
Alors, mission accomplie donc, avec plus de 5 000 supporters qui ont participé à cette levée de fonds.
Ouais, 5 000 supporters de toute la France et cette somme de 120 000 euros, les Socios Verts la possèdent désormais. L'association va donc entrer dans le capital du club à hauteur de 0,1%. Alors 0,1%, c'est symbolique, hein. Évidemment. Les Socios Verts ne pourront pas siéger par exemple au conseil d'administration. Mais dans un club comme Saint-Étienne qui se veut très populaire, qui plus est l'année du 50e anniversaire de leur finale de Coupe d'Europe, ce symbole, il est quand même très important.
Eh bien merci à tous les trois, l'actualité d'ici et d'ailleurs. À suivre le journal de 19h.